C'est l'heure du journal présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Élise, bonjour à toutes et à tous. Et l'on se rendra dès le début de ce journal en Israël où le gouvernement a ordonné ce matin le rappel de 60 000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza. L'actualité à l'étranger, c'est également ce rapprochement initié entre les deux géants asiatiques, la Chine et l'Inde, à la faveur de la guerre commerciale imposée par un certain Donald Trump. Tandis qu'Américains et Européens sont toujours à la manœuvre pour tenter d'offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas d'accord avec la Russie. On se demandera comment les entreprises de défense réagissent à cette perspective de paix. Enfin, François Bayrou a-t-il les capacités pour tenir le gouvernement? Oui, répond Emmanuel Macron dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Paris Match et dans lequel on le verra, le président répète qu'il ne veut pas de nouvelle dissolution. La guerre à Gaza est-elle destinée à devenir une tragédie sans fin? Non seulement la nouvelle proposition des médiateurs égyptiens et qataris sur une trêve de 60 jours prévoyant le retour de la moitié des otages retenus dans le territoire palestinien reste pour l'heure toujours lettre morte. Plus exactement, si Israël n'a pas formellement réagi, les autorités continuent d'exiger la libération de tous les captifs. Et puis ce matin, c'est donc en pleine médiation en vue d'un éventuel cessez-le-feu que le gouvernement Benjamin Netanyahou a carrément ouvert la voie à une nouvelle offensive de masse, un plan d'attaque de la ville de Gaza. Michel Paul, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de RFI pour France Culture. L'opération a été approuvée par le ministre de la Défense, allié de longue date du Premier ministre, lequel a donc ordonné par ailleurs, Michel le rappelle, de 60 000 réservistes.
Oui, c'est en fait la première phase de l'opération intitulée « Chariot de Gédéon numéro 2 », une mobilisation d'envergure. Ce matin, l'armée a publié des ordres de mission pour 60 000 réservistes supplémentaires appelés à rejoindre les rangs dans un délai de 15 jours. Ils viendront renforcer les 70 000 déjà déployés sur le terrain. Hier, le gouvernement a validé une rallonge budgétaire massive, 31 milliards de shekels, soit environ 8 milliards d'euros, afin de couvrir les coûts croissants de cette guerre. Prochaine étape décisive, demain, le cabinet de sécurité doit entériner le plan définitif de prise de contrôle de Gaza, mais aussi arrêter la réponse israélienne au plan de trêve accepté par le Hamas. Deux décisions indissociables au cœur d'une même bataille, avec des pressions des familles d'otages pour qui l'offensive militaire est un arrêt de mort pour leurs proches, et les réservistes et leurs familles qui demandent, eux, une meilleure répartition des périodes de réserve, notamment en mobilisant les ultra-orthodoxes.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem. Comme une preuve de plus de l'exportation partout de ce conflit, la relation entre l'État hébreu et la France est rentrée depuis hier soir dans une nouvelle zone de crise sur le sujet très sensible de l'antisémitisme. Dans une missive officielle, Benjamin Netanyahou accuse Emmanuel Macron en personne de nourrir rien de moins que la haine contre les Juifs, en particulier avec son intention de reconnaître l'État palestinien lors de la prochaine Assemblée Générale de l'ONU. Une charge éminemment violente et qui a provoqué une réponse non moins ferme de l'Élysée. Cette analyse est, je cite, « erronée, abjecte et ne demeurera pas sans réponse ». Fin de citation. L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, a été il y a quelques minutes l'invité de nos confrères de France Info. On l'écoute.
La question des deux États n'est pas une question qu'il faut présenter à Israël. Parce qu'Israël a proposé la création d'un État palestinien à quatre différentes occasions. Cette solution a été rejetée par l'autorité palestinienne à quatre différentes occasions. Si le président voulait vraiment aider à une solution politique entre Israël et les Palestiniens, ce ne serait pas en faisant pression sur Israël qu'il devrait le faire, mais plutôt en faisant pression sur le Hamas et sur l'autorité palestinienne pour qu'ils acceptent la question et le concept même de la paix. Aujourd'hui, il y a en tout cas en Israël le sentiment que certaines communautés juives à travers le monde sont en danger. Alors, je ne dis pas que la République ne fait rien. Il faut dire de façon très claire, la République fait énormément. Mais il y a tellement d'actes d'antisémitisme qu'aujourd'hui, il semble que ça déborde. C'est une erreur stratégique qui peut déstabiliser encore, plus encore, la région que ce qu'elle est aujourd'hui.
Joshua Zarka, donc ambassadeur d'Israël en France. Toujours au chapitre des mises au point, Emmanuel Macron a décidé de se confier dans un entretien exclusif à Paris Match, l'occasion pour le chef de l'État de digresser notamment sur ce qui constitue à ses yeux la véritable épreuve en politique, celle du temps, manière d'évoquer ainsi ses anciens soutiens qui s'éloignent à mesure que se rapproche la prochaine présidentielle. Il y affiche par ailleurs sa volonté de faire respecter la vérité, ce qui vaut aussi bien pour les rumeurs transphobes sur son épouse que les incertitudes internationales. sans oublier les turbulences parlementaires à venir. À ce titre, le président ne manque pas de réaffirmer sa confiance dans son Premier ministre, et ce, donc, malgré les menaces déjà de censure programmées pour la rentrée, laquelle s'annonce par ailleurs chahutée socialement. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
En l'occurrence, Emmanuel Macron promet qu'il n'envisage pas aujourd'hui de deuxième dissolution.
Oui, interrogé dans Paris Match sur la tentation qu'il pourrait avoir de déclencher une nouvelle dissolution, Emmanuel Macron répond par la négative. Non, la dissolution, je l'ai faite, je m'en suis expliqué. Le Parlement reflète les fractures du pays, ajoute-t-il, c'est aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. Il dit également espérer que François Bayrou reste à Matignon jusqu'à la fin du mandat en 2027. Il est mon ami, affirme Emmanuel Macron, mon compagnon de route. Le président estime par ailleurs que le Premier ministre a les capacités pour tenir et il endosse la co-responsabilité du plan de rigueur budgétaire annoncé mi-juillet. Ce plan, on le rappelle, prévoit 44 milliards d'euros d'économies, une année blanche budgétaire en 2026 et la suppression de deux jours fériés entre autres. Nous l'avons longuement préparé ensemble, avance le chef de l'État. C'est un bon plan, il est lucide et courageux. En disant cela, Emmanuel Macron anticipe la rentrée qui pourrait bien être agitée pour l'exécutif. Il y a d'abord une contestation sociale qui s'organise autour du mouvement « Le 10 septembre, bloquons tout ». Cette contestation est d'ores et déjà nourrie par plusieurs corporations, déjà en grève ou qui s'apprêtent à s'y mettre, les pharmaciens et les taxis. Et puis la rentrée s'annonce également agitée à l'Assemblée nationale, avec l'examen du budget 2026 à partir du mois d'octobre. Il y a un vrai risque de censure du gouvernement Bayrou par les députés. Le président prévient donc à l'avance qu'en cas de censure, il n'y aura pas de dissolution de l'Assemblée et peut-être même pas forcément de changement de Premier ministre. Il pourrait renommer François Bayrou. Le message envoyé en direction des parlementaires, c'est donc pas la peine de s'énerver. Quoi que vous fassiez, ça ne changera rien. Avec cette interview à Paris Match, Emmanuel Macron essaie donc de désamorcer ou commencer à désamorcer le nouveau moment de tension sociale et politique qui s'annonce dans les semaines à venir.
Merci Stéphane Robert. Un nouvel outil de la démocratie participative et locale en péril après que les conseils économiques, sociaux, environnementaux, régionaux ont été sauvés de justesse en avril dernier dans la loi dite de simplification. C'est au tour des conseils de développement, les CODEV, d'être menacés, passés sous les radars dans le cadre d'une proposition de loi. C'était cet été sur le pouvoir préfectoral. Le Sénat a en effet adopté un amendement gouvernemental autorisant les préfets à dispenser les intercommunalités de plus de 50 000 habitants de créer un conseil de développement. Une mesure pour redonner plus de souplesse aux élus locaux, justifie le gouvernement. Sauf que ces conseils, vieux d'un quart de siècle, permettent d'associer les citoyens à la définition des grands choix de politique publique dans les territoires, ce qui signifie, Mélanie Kuzelewicz, que leur disparition menacerait clairement l'exercice même de la démocratie.
Réfléchir, débattre et proposer des solutions alternatives auxquelles les élus n'avaient pas pensé, c'est le cœur des activités, explique Dominique Chuffard, coprésident de la CNCD, la Coordination Nationale des Conseils de Développement.
On peut les appeler poils à gratter, on peut les appeler différenciants, on peut trouver plein de noms comme ça. Le vrai but, en tout cas, c'est de faire en sorte qu'il y ait une écoute réciproque entre les élus et les citoyens.
Quand la mécanique est bien rodée, le dispositif peut très bien fonctionner, comme dans la métropole de Rennes, intercommunalité dans laquelle il a présidé le CODEV ces quatre dernières années.
Je pense notamment au PLH, le plan local habitat. Le Conseil de développement a émis plus de 70 propositions et on sait qu'il y en a une quarantaine de propositions qui ont été intégrées et retenues dans le PLH final.
La CNCD alerte, l'amendement qui les rend facultatifs met clairement en danger les conseils de développement.
On peut imaginer que lors d'un changement de majorité aux prochaines municipales, les élus disent « nous on n'en veut plus ». Si on voulait irriter un citoyen qui a encore envie de s'engager, qui a encore envie de discuter avec les politiques, on n'aurait pas mieux fait, quoi.
Une mesure qui tombe mal dans un contexte d'instabilité politique, prévient Dominique Chuffard.
C'est même inadmissible par les temps qui courent. S'il y avait une vraie écoute depuis l'origine et partout en France des conseils de développement, des CESER ou des autres organismes de concertation citoyenne, je pense qu'il n'y aurait peut-être jamais eu de gilets jaunes. Et là, on se demande si on ne veut pas y retourner, quoi.
La Coordination nationale des conseils de développement réclame donc le retrait total de l'article de la proposition de loi.
Et je précise que le texte de loi doit désormais être examiné à l'Assemblée nationale. Même si les processus de paix se font généralement dans la douleur, marqués qu'ils sont par la fatigue, la déception, parfois même les accusations de faiblesse ou de trahison, le moindre petit pas qui nous rapproche de la fin d'une guerre est toujours le bienvenu. Et ce fut le cas lundi dernier dans le bureau ovale, avec tout d'abord les gestes appuyés d'apaisement des uns envers les autres pour trouver une issue au conflit en Ukraine, mais aussi l'annonce d'une possible rencontre prochaine entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. En revanche, c'est vrai que la question des concessions territoriales exigées par la Russie a été soigneusement évitée. Puis puis l'autre grande inconnue, pourtant présentée comme un sujet absolument central par Kiev, demeure celle des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu ou mieux d'accord de paix, de manière à dissuader la Russie de repartir à l'offensive dans un futur proche ou éloigné. Alors le sujet sera au menu aujourd'hui de la réunion des chefs d'état-major de l'OTAN. Hier déjà, Donald Trump s'est dit prêt à ce que les États-Unis apportent un soutien militaire aérien. Le président américain a exclu en revanche tout déploiement de troupes au sol, une mission qui pourrait être dévolue le cas échéant aux alliés européens. Quoi qu'il en soit, et avec l'espoir d'une fin prochaine du conflit, nécessairement, il en est certain qui accuse le coup, ce sont les entreprises de défense. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Si globalement les bourses européennes ont plutôt le sourire, certaines valeurs, Camille, enregistrent des baisses assez importantes.
Oui, on parle par exemple de moins 10% hier pour l'action du groupe italien Leonardo, et globalement entre moins 5 et moins 7% pour le suédois Saab, les allemands Rheinmetall ou Renk, et le français Thales aussi, tendance confirmée ce matin à l'ouverture. Alors il faut bien recontextualiser ces contre-performances parce qu'elles font suite à des années de fortes hausses. En fait, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les marchands d'armes européens ont vu leur valorisation boursière multipliée parfois par 10. Depuis lundi, on observe donc un effet de rattrapage prévisible selon l'économiste Renaud Bellet de l'université Grenoble Alpes. Il co-dirige l'Observatoire de la Défense à la Fondation Jean Jaurès. Et ce qu'il retient du sommet de Washington lundi, c'est aussi cet engagement de l'Ukraine à acheter massivement à l'avenir des armes américaines.
La production d'armement en Europe pour l'Ukraine a été en forte croissance. Il est certain que si les combats s'arrêtent et que les Ukrainiens s'engagent à acheter beaucoup de matériel américain, les 100 milliards qui ont été évoqués par Zelensky lors de la rencontre avec Trump, cela veut dire aussi que les opportunités de marché vont être plus limitées pour les entreprises européennes que ce qu'on pouvait en imaginer il y a quelques semaines.
Alors, pas d'inquiétude pour autant pour nos fabricants d'armes européens. Ils devraient bénéficier de l'engagement des pays membres de l'OTAN sous la pression de Donald Trump d'augmenter massivement leur budget de défense, de mieux équiper donc leurs propres armées. C'est le cas en France, on se souvient des annonces d'Emmanuel Macron avant le 14 juillet. Mais c'est le cas aussi en Allemagne où le gouvernement a annoncé vouloir dépenser 350 milliards d'euros en armement d'ici 2041.
Merci Camille Manière. C'est un rapprochement que l'on pensait encore impensable il y a quelques mois à peine et qui finalement a bel et bien eu lieu directement sous l'effet des menaces commerciales brandies par Donald Trump. Hier, l'Inde et la Chine ont confirmé leur volonté d'apaiser leurs différends frontaliers et notamment avec la reprise dès que possible des vols commerciaux directs suspendus entre les deux pays depuis maintenant 5 ans. Les précisions de notre correspondant en Inde, Com Bastin.
Des accrochages militaires dans l'Himalaya avaient vu leurs soldats s'entretuer en 2020 et conduit les deux grandes puissances rivales asiatiques à une quasi-rupture diplomatique. Mais les lignes bougent rapidement depuis que Donald Trump a annoncé 50% de taxes contre l'Inde pour la punir de son achat de pétrole russe, menace très mal reçue ici mais réitérée ce lundi par un conseiller du président américain pour qui l'Inde ne se comporte pas en partenaire stratégique. Le même jour, le chef de la diplomatie de Pékin atterrissait à New Delhi, une rare visite qui a suscité de l'optimisme dans les deux pays. Pour le politologue indien Vivek Mishra, spécialiste de la relation entre l'Inde et les États-Unis, ce rapprochement est une réponse à Donald Trump.
Because of the things that is happening between the US, some of the doors that the US are shutting.
Alors que des portes se ferment avec son premier partenaire commercial, l'Inde est forcée d'en ouvrir de nouvelles. Mais le rapprochement avec la Chine est aussi une opportunité stratégique. En tant que puissance émergente, nous ne pouvons pas faire durer éternellement ce conflit frontalier. Il nous faut reprendre les importations de terres rares et de fertilisants depuis la Chine.
Fin août, c'est le premier ministre indien Narendra Modi qui se rendra en Chine, une première depuis 7 ans, pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Une visite en forme d'affront au président américain, dont la grande popularité, aux yeux de l'opinion publique indienne, s'est effondrée.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi instable, marqué par des précipitations et même des orages sur la plupart des régions, notamment du sud-ouest aux frontières de l'est. 11 départements au total vont être placés en vigilance orange. Pluie, inondation, en revanche, les températures restent relativement douces, entre 18 et 29 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.